Radio Kapi.
Le verdict vient de tomber dans l'affaire de 32 musulmans arrêtés jeudi à Kinshasa après des actes de violence à la clôture du Ramadan. Plusieurs sont condamnés à mort, certains à 5 ans de servitude pénale principale et d'autres acquittés. Des détails dans un instant. Le gouverneur de Litouri rappelle à tous les contribuables leur obligation de s'acquitter des impôts, taxes et redevances dues à la province. Pour le général Nkashama, Litouri a besoin des fonds conséquents pour faire face aux impératifs d'ordre sécuritaire. L'invité de ce matin, François Sobo, coordonnateur de la section appui à la justice de la MONUSCO à Goma, il nous parle de la formation organisée à Goma dans le cadre du projet Réduction de la violence communautaire, cas des conflits fonciers dans le Nyiragongo. Madame, Messieurs, bonjour. Plusieurs fidèles musulmans condamnés à la peine de mort, certains à 5 ans de servitude pénale principale et d'autres acquittés. C'est la sentence prononcée à l'issue du procès des membres de la communauté islamique du Congo. Le verdict est tombé ce matin même à 5 heures de Kinshasa après une procédure de flagrance débutée hier devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Leur arrestation immédiate a été ainsi ordonnée et ils ont été acheminés à la prison centrale de Makala. Jeff Ngoy a suivi pour nous ce procès la nuit.
Le tribunal les a reconnus coupables d'associations de malfaiteurs, de rébellions et de tentatives de meurtre. Il a déclaré non établi en droit l'association de malfaiteurs pour quelques fidèles et les en a acquittés. Pour le groupe des mineurs, le tribunal s'est déclaré incompétent et ils seront remis à leur juge naturel. Pour les partis civils constitués des policiers Abdallah Mangala et d'autres particuliers victimes des actes de vandalisme, le tribunal a condamné les prévenus à les dédommager en ayant 15 jours avec des sommes allant de 2 000 à 50 000 dollars selon les cas. Au nom d'Allah Akbar, une foule de musulmans venus clôturer le jeûne du Ramadan jeudi dernier au stade des martyrs se sont rebellés contre les policiers après avoir été sommés de vider le stade à la suite des tensions. Il y a eu affrontement entre factions rivales de la communauté islamique du Congo. Jette de pierres, policiers brûlés vifs, plusieurs blessés graves, des véhicules détruits. Les images ont suscité l'indignation dans l'opinion publique.
Affaire débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le procureur général près la Cour constitutionnelle sollicite dans un réquisitoire la levée des immunités de l'ancien premier ministre et sénateur Augustin Matata Ponyo. Après débat et délibération au cours de la plénière d'hier vendredi, les sénateurs ont rejeté le réquisitoire du procureur. La plénière du Sénat estime que Augustin Matata Ponyo, n'étant plus premier ministre, n'est pas justiciable devant la Cour constitutionnelle. Mais que prévoit la loi pour la levée des immunités d'un sénateur? Michel Kifindangoy.
En vertu de l'article 107 de la Constitution, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Pour les infractions commises en dehors de la fonction parlementaire, comme c'est le cas avec le dossier du parc agro-industriel de Bukangalonzo, tout sénateur, y compris Augustin Matata Ponyo, ne peut être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation du Sénat. La plénière du Sénat ayant rejeté la demande d'élever de ses immunités introduites par le procureur près la Cour constitutionnelle, les poursuites contre le sénateur Matata sont donc suspendues. En effet, à la lumière des articles 163 et 164 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. Les sénateurs, dont Matata Ponyo, sont justiciables en premier et dernier ressort par la Cour de cassation, conformément à l'article 153 de la Constitution. Si ces réquisitoires émanaient du procureur général près la Cour de cassation, il aurait bénéficié d'une suite favorable, conclut la plénière du Sénat.
Rendons-nous à Ituri. Le nouveau gouverneur, le général Johnny Nkashama, rappelle à tous les contribuables leur obligation de s'acquitter des impôts, taxes et redevances dues à la province. Dans un communiqué de presse publié vendredi, le gouverneur de Ituri indique que de nombreux assujettis manifestent une réticence au paiement de ces taxes et impôts. Il précise qu'en ce moment, Ituri a besoin des fonds conséquents pour faire face aux impératifs d'ordre sécuritaire. Isaac Remoyope nous fait le résumé de cette première décision de l'autorité provinciale.
Selon les constats faits par le gouverneur militaire de l'Ituri, la plupart des assujettis et des contribuables se dérobent de leurs obligations fiscales depuis le vote de la motion de censure en avril dernier contre le gouvernement provincial dirigé par Jean Bamanissa Saïdi, mais aussi la proclamation de l'état de siège le 3 mai en Ituri et au Nord Kivu. Dans son communiqué de presse, il précise, je cite, que les mesures politiques n'affectent aucunement la mission confiée à la régie financière de la province, la DGRPI, de mobiliser et de maximiser les recettes. Il ajoute que la province de l'Ituri traverse un moment crucial qui nécessite des moyens conséquents pour répondre aux impératifs d'ordre sécuritaire. Le général Johnny Kachama invite tous les assujettis et contribuables à s'acquitter convenablement de leurs obligations et dans les délais, sous peine d'encourir les contraintes selon les dispositions légales. Il a demandé à la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri DGRPI de veiller à l'application sans faille de cette mesure. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'état de siège décrété par le chef de l'État continue à bonifier entre-temps du soutien de toutes les couches de la population. Après le caucus des députés nationaux de toutes les provinces du pays, c'est au tour de la CK20, la communauté évangélique au centre de l'Afrique, de mobiliser tous ses fidèles pour soutenir l'état de siège. Cette communauté chrétienne répandue dans l'est du pays a à cet effet décrété depuis hier vendredi 3 jours de jeûne et prière pour soutenir dans la foi toutes les mesures prises par le chef de l'État et toutes les actions en cours pour rétablir la paix en Ituri et au Nord Kivu. Pour l'un des bergers de la CK20, Kinshasa Gombe, tous les chrétiens devraient se concentrer dans la prière afin d'assurer la victoire au FARDC dans cette guerre contre les ennemis de la paix. Le pasteur Dieudonné Mouchamala est au micro de Michel Kifindangoy.
J'ose croire et je crois que le président est dans le bon. Ça, c'est la sagesse et l'intelligence qui est venue de Dieu pour le décréter cet état de siège au nord et en Ituri dans notre pays. C'est pourquoi la CK20, communauté évangélique au sein de l'Afrique, a décrété pour aussi accompagner nos frères qui sont déjà au front là-bas et au travail, pour demander pour eux la force, pour demander pour eux la puissance, demander pour eux la grâce du Seigneur afin de travailler pour la paix dans notre pays, pour la paix dans l'Est du Congo, pour la paix au Nord Kivu, pour la paix en Ituri, et pourquoi pour la paix au Sud Kivu. Vraiment, cet état de siège décrété par le président de la République est salutaire pour nous les chrétiens. Il n'est pas sorti hors de la parole de Dieu.
Autre nouvelle, le ministre du Commerce extérieur a donné des nouvelles orientations aux différents services sous tutelle de son ministère et dit attendre des résultats dans les 3 prochains mois. Jean-Lucien Boussa Tongba a à cet effet instruit l'équipe dirigeante de l'Office congolais de contrôle OCC de tout mettre en œuvre afin de procéder à la construction des nouveaux laboratoires et à l'inauguration de ceux déjà achevés. C'est un reportage de Michel Outeté.
Le ministre Jean-Lucien Boussa a exhorté ses services à être compétitifs, surtout dans le cadre de la zone des libre-échange continentale africaine. Pour sa part, le directeur général de la Foire internationale de Kinshasa, FIKIN, Eugène Bokopolo, a plaidé pour que les militaires occupant les maisons des motels FIKIN, patrimoine immobilier de la Foire, soient délogés. Il a aussi demandé le déguerpissement des policiers installés dans l'enceinte de la FIKIN qui peinent à organiser des activités foraines.
Vous savez que certains officiers généraux occupent les maisons du motel. Il y a une situation qu'on doit clarifier parce que jusque-là, on ne voit rien. La situation de motel FIKIN n'est pas claire. C'est notre patrimoine immobilier, mais on ne voit rien.
Avec les responsables du projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs, le ministre a pris l'engagement de tout régulariser pour la poursuite des constructions de la 4e infrastructure transfrontalière de la petite barrière des Goma au Nord Kivu.
Pénurie d'eau potable depuis plus de 5 mois dans la ville de Matadi. La régie des eaux dit avoir besoin de certains matériaux pour résoudre ce problème. Cette précision est du directeur provincial de la régie des eaux Congo Central, Julien Massirika, l'a dit hier à l'issue de la visite par le gouverneur Atumatubwana des installations de cette régie à Matadi. Le gouverneur du Congo Central a promis son implication pour soulager tant soit peu la misère de la population en attendant une solution durable avec la mise en exécution de la 2e phase du projet d'amélioration de desserte en eau potable PMU sur financement de la Banque mondiale. Plus de détails avec Nana Plurich Mambou.
Les 3500 branchements sociaux dans le cadre de la 1e phase du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain que finance la Banque mondiale constituent le nœud de problèmes liés à la pénurie d'eau dans la ville de Matadi. La 2e phase, qui devrait normalement être exécutée en aval, nécessite un financement de 7 millions de dollars. Cette phase consistera à agrandir les les usines de captage et de nettoyage d'eau basées à Matadi en vue d'accroître la production d'eau. En attendant l'exécution de cette énième phase, la régie des eaux Congo centrale a des besoins pressants. C'est ce qui explique son directeur provincial Julien Massirika.
Au niveau de la flocculation, c'est là où le premier problème se pose. Le flocculateur qui est là, de 800 mètres cubes, devient insuffisant. Il suffirait qu'on ajoute deux autres filtres. Nous avons résolu définitivement le problème d'eau à Matadi.
Le gouverneur du Congo central qui appelle la population à payer les factures de la régie des eaux pour lui permettre de fonctionner, promet aussi son implication pour décanter cette situation de pénurie d'eau.
Comme vous savez, nous vivons ces derniers temps de délestage dans la desserte de l'eau potable dans la ville de Matadi. Il va falloir qu'on vienne à l'appui à l'usine.
Signalons que l'usine fleuve de la régie des eaux Matadi a une capacité de production de 39 600 m3, mais présentement, par manque d'un flocculateur et d'un filtre de plus, cette usine ne produit que 26 000 m3 par jour pour servir plus d'un million d'habitants. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les mototaxis se sont imposés en très peu de temps parmi les moyens de transport utilisés par les Kinois. Au sein de la population, les avis sont partagés sur leur utilisation. Certains apprécient, affirmant que cela est d'une grande aide. D'autres sont plutôt réticents. Ils évoquent de nombreux écarts de leurs conducteurs à la base des nombreux accidents. C'est un reportage signé Jocelyne Mukendi et Jocelyne Poy.
Parmi les nombreux reproches des Kinois aux motards, on note le manque de casque, le transport des enfants à l'avant et surtout le non-respect du code de la route à la base des nombreux accidents. Cette situation dérange la commission des préventions routières, l'administrateur directeur Donatien Talabao.
Le conducteur de moto a les droits de respecter les codes de la route comparablement à ceux qui conduisent des véhicules. Il viole des tronçons à sens unique ici à Kinshasa. Prenons l'exemple de l'avenue Kasai allant de Kabinda jusqu'au boulevard du 30 juin.
Malgré cela, certains Kinois disent ne pas pouvoir s'en passer.
C'est un avantage pour moi quand je suis en retard, qu'ils accélèrent un peu parce que ça m'aide à arriver où je vais à temps.
Du côté de l'association de motards, on affirme marteler sur le comportement et le respect du code de la route.
Nous prenons le temps de conseiller les motocyclistes dans nos parkings sur la manière dont ils doivent se comporter.
Pour le ministre provincial de transport, Honoré Mbokoso, un projet est en cours pour leur identification.
Nous sommes conscients du comportement des motocyclistes, un problème qui touche la sécurité de la nation. Sur ce, nous y travaillons petit à petit afin d'organiser ces secteurs.
C'est suite à la crise du diamant que les mototaxis ont fait leur apparition à Kinshasa.
Stratégie du leadership et dynamique des groupes, c'est le thème d'une formation organisée hier en faveur des jeunes leaders communautaires et responsables des différentes associations basées dans 3 communes de la ville de Beni. C'est une initiative de l'organisation Jeunes Patriotes Consolidateurs de la Paix, JPCP. Benjamin Assoumani, coordonnateur de cette organisation, parle ici des motivations de cette formation. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons sélectionné les organisations qui sont à leur phase embryonnaire. Nous avons voulu les interpeller sur les erreurs des anciennes organisations, les erreurs du passé, et leur demander que, comme ils se sont engagés de travailler au nom de la jeunesse, au nom de la communauté, il y a certains défis face auxquels ils vont se rencontrer, et parmi ces défis, ils vont se rencontrer des fois traités de non productifs par la communauté, parce qu'aujourd'hui le langage est que les associations ou bien les ONG ne contribuent pas au développement de la communauté. Alors nous, on veut que d'une manière ou d'une autre, parce que le développement part du mental, les organisations travaillant dans les mentales, pourquoi est-ce que sont traitées de non productives? Alors, on veut amener les associations de travailler pratiquement sur le besoin réel de la population en matière d'éducation transversale pour que les domaines d'intervention de l'éducation, de la santé, de la protection de l'enfance, au sein de ces domaines-là, qu'ils puissent se développer des activités qui répondent pratiquement aux besoins de la population dans ces axes.
Signalons que les participants à cette formation sont les membres des associations telles que Action des Jeunes pour le Progrès, Opportunité Club, Club des Jeunes et Dynamique des Jeunes pour le Développement.
Actualité Afrique Monde.
Le Premier ministre ivoirien a passé quelques jours à l'hôpital en France cette semaine après une première intervention chirurgicale à Paris la semaine précédente, un séjour médical sur lequel les autorités ont gardé le silence et qui a suscité une certaine inquiétude dans un pays qui a perdu 2 premiers ministres successivement en moins d'un an. La France va accorder l'asile à près d'une centaine d'Afghans ayant travaillé en Afghanistan pour des ONG ou institutions françaises, geste humanitaire sur le papier, mais qui provoque des interrogations au sujet de la stratégie française dans ce pays. Une décision du Quai d'Orsay plutôt inattendue et controversée, révèle le journal Le Monde.
L'invité.
Comme annoncé ce matin, nous recevons François Sobo, coordonnateur de la section appui à la justice de la MONUSCO à Goma. Il nous parle de la formation lancée au chef-lieu du Nord Kivu dans le cadre du projet Réduction de la violence communautaire, cas des conflits fonciers dans le Nyiragongo. François Sobo s'entretient à ce sujet avec Mathieu Ilunga Chambui.
Monsieur François Sobo, bonjour.
Bonjour monsieur.
Nous venons d'apprendre que vous avez lancé un nouveau projet. De quoi s'agit-il?
Vous savez, le rôle de la MONUSCO n'est pas seulement d'aider à la réduction des groupes armés à les vaincre. Le rôle de la MONUSCO, l'un de nos mandats, c'est d'essayer de consolider aussi la paix sociale. Nous avons constaté que là où les activités des groupes armés n'est plus courante, les populations ont d'autres problèmes. Problème de la cohésion sociale. Donc ce projet est conçu pour pouvoir consolider la paix sociale, dans la mesure où dans le Nyiragongo spécialement, en tout cas dans la province du Nord Kivu, l'un des problèmes les plus cruciaux, c'est les conflits fonciers. C'est à la base d'un grand nombre de violences sociales au sein de la population. Et même devant le tribunal de paix de Nyiragongo qui est compétente, on constate que 80% des cas enregistrés au niveau du registre civil sont des problèmes fonciers. C'est pour cela que nous avons essayé de mettre en place ce projet pour pouvoir autant soit peu régler les conflits fonciers dans ce territoire.
Alors, c'est une nouvelle expérience ou bien vous l'avez déjà expérimenté et avec quel résultat?
C'est le deuxième. Nous l'avons déjà fait dans les groupements de Kibumba et Burumba en 2019. C'est ce qui nous a encouragés à reprendre. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que un grand nombre de ces conflits qui sont devant le tribunal de paix ont duré pendant des années. Les populations n'ont pas les moyens de suivre le dossier. Des gens arrivent, les procès sont reportés, ils n'ont pas les moyens et ils sont dans la désespérance totale. Alors, ça n'arrête pas la violence. Donc, la mise en œuvre de ce projet qui nous a pris 8 mois a permis de régler 97 cas. Quand je dis 97 cas, ce n'est pas 97 personnes. Vous savez qu'une famille est composée de plusieurs personnes. Et nous avons été franchement émerveillés de voir que les populations sont satisfaites de ce projet. Elles ont même demandé qu'on puisse les reproduire. Et nous avons considéré que les mêmes problèmes sont dans d'autres groupements. C'est ce qui nous a encouragés franchement à continuer à mettre en ce projet qui constitue pour nous un facteur principal de consolidation de la paix sociale.
C'est quelle sorte de mécanisme combiné dont vous voulez parler?
Vous savez, la justice est là pour régler les conflits sociaux. On ne peut pas en discuter. Mais les cas des conflits fonciers sont complexes. Dans un état de droit, on considère que c'est la justice qui doit régler autant que se peut les conflits entre les citoyens. Mais nous avons constaté qu'il y a des cas très complexes qui concerne les conflits fonciers. Souvent, c'est entre la même famille, entre des familles opposées dans une seule communauté. Et on a constaté une sorte d'efficacité relative de la justice classique. Et sachant quand on gagne un procès, on perd aussi. Et le but, c'est de faire revenir la paix sociale. C'est pour ça que nous avons combiné un mécanisme de règlement alternatif des conflits qui est la médiation. À la suite de la médiation, nous faisons constater l'accord des parties qui est homologué par la justice. C'est-à-dire, en même temps, on règle la question conformément au droit, conformément à la loi, mais on essaie de voir qu'au-delà de la loi, les gens puissent se comprendre et continuer à vivre ensemble.
Vous combinez et la loi et la médiation à travers la cohésion sociale.
La loi est là pour consolider la cohésion sociale. Et donc, les séances de médiation permettent aux personnes en conflit de se parler, de régler leur conflit entre eux, au lieu de forcément de le porter devant la justice qui prend un grand nombre d'années, 3 ans, 4 à 5 ans, sans qu'une issue ne soit trouvée. Et dans cette combinaison, c'est unique, ce n'est pas une approche classique, mais nous avons fait l'expérience et nous avons constaté que ça a donné des résultats encourageants.
Vous pouvez être spécifique pour nous dire l'activité qui a été la vôtre la journée d'hier.
Hier, nous avons lancé ce projet. Nous avons vu que notre partenaire qui est Action pour la paix et le développement en Afrique centrale, qui porte ce projet, va former une cinquantaine de médiateurs fonciers à la loi foncière. Ces médiateurs vont se mettre donc d'abord à faire des séances de vulgarisation de la loi foncière, des séances d'information de la population afin de les amener à venir s'asseoir, ceux qui sont en conflit, à venir s'asseoir pour pouvoir discuter et trouver une issue favorable à tout le monde, au conflit qui les oppose. Donc l'activité d'hier, c'est de lancer ce projet qui a d'une durée de 3 mois. On espère que ça va pouvoir continuer après parce que 3 mois ne suffisent pas pour pouvoir régler tous les problèmes fonciers dans les deux groupements Moudja et Bouvira.
Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui se trouvent aussi dans des problèmes pareils qui peuvent en profiter?
D'abord, se dire que la violence ne règle pas les problèmes. Ça ne fait que générer de la violence. C'est une opportunité que la MONUSCO offre en appuyant ce projet. Et ceux qui ont déjà bénéficié de ce projet à Kibumba, à Boumba peuvent le témoigner. Nous avons effectivement réglé le problème à la source. C'est une occasion formidable pour eux de régler à l'amiable leur problème.
Je vous remercie
aussi.
Le coordonnateur de la section appui à la justice de la MONUSCO à Goma, François Sobo, s'entretenait avec Mathieu Ilunga. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Ben Kabamba. La mise en onde de Jean-Claude Nsiala. Merci de votre attention. L'actualité continue sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.